On vient d'avoir Plémo en direct sur ce plateau, on est ravis. On a maintenant Raphaël, le batteur de Feu Chatterton, salut.
Salut.
On va faire l'interview croisée, ça te dit?
Yes, pas de soucis, avec plaisir.
Vas-y, je te laisse démarrer.
Alors votre dernière grosse actu, c'était donc le deuxième album qui est sorti en mars dernier, L'Oiseleur. Alors, est-ce que cet album, il s'inscrit dans la continuité du précédent ou est-ce que vous avez voulu partir sur une direction totalement différente?
On n'a pas essayé de partir sur une direction différente. Après, on a forcément mûri entre les deux albums. On a fait 2 ans de tournée. On a eu des nouveaux joujoux, des nouveaux synthés. Donc, il y a des nouvelles sonorités qui sont arrivées. Et donc, non, je pense que c'est dans la continuité. C'est-à-dire que le principe est toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre très fort entre le texte et la musique, et un jeu de miroir un peu permanent entre la musique raconte le texte et le texte raconte la musique, toujours. Ça, on l'a conservé, mais voilà, c'est juste, on a un peu avancé depuis, et juste dans l'écriture, peut-être que c'est un peu moins narratif.
Okay.
Peut-être un peu plus imagé, un peu plus onirique. Voilà, c'est...
Ce que j'ai cru comprendre en plus, c'est pour l'écriture du deuxième album. Vous êtes resté à Paris. Arthur, lui, était parti en Espagne, je crois, ou ailleurs,
Un peu autour de la Méditerranée, mais en Italie, un peu en Andalousie aussi, mais pas mal vers Naples, vers Prochina.
Mais du coup, tu parlais de miroir, et c'est un peu ça, parce que du coup, il a écrit ses textes de son côté, et vous, la musique de votre côté.
Il a commencé les textes de son côté. Il les a finis en studio ou pendant l'enregistrement, mais en fait l'ambiance, le cadre a été défini effectivement pendant son petit voyage. On l'a envoyé en exil comme ça loin, et nous on a commencé à faire du son. Non, mais surtout pour retrouver un peu l'apaisement, puisque les 2 ans de tournée c'était genre
ça devait être dur. Oui.
C'est pas forcément dur, mais ça te coupe vachement de l'inspiration. Enfin, c'est tous les jours beaucoup de concentration, juste tendu vers le concert. Donc il a dû retrouver un peu de gratuité, quoi.
Bien
genre
sûr.
Juste qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Rien.
C'est ça, le bonheur de dire rien.
Et pour pouvoir laisser la place aux histoires qu'il avait envie de raconter, donc voilà.
Donc vous êtes 5 dans le groupe, ça fait assez nombreux. Pour ce qui est du processus de composition, est-ce que tout le monde met un peu la main à la pâte? Est-ce que ça s'harmonise facilement ou ça peut être source de conflit?
Alors ça peut être source de conflit, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est juste qu'effectivement, tant que les 5 sont pas d'accord, le morceau n'est pas fini.
Mm-hmm.
Donc inutile de dire que vu qu'on est 5 grandes gueules, on a des goûts différents en plus. Mm-hmm. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps, mais c'est ça qui est le plus excitant, je pense. Les textes, c'est Arthur qui s'en occupe.
Ouais.
Même si, enfin là, il y a 2 textes de poètes assez connus dans l'album, mais sinon c'est Arthur. Et la musique, par contre, c'est vraiment, c'est un processus. Ça peut venir d'une jam, ça peut venir d'un des guitaristes tout seul devant son ordi. Puis après, on reprend tout ça ensemble et on le détruit. Des fois, on change complètement le morceau par rapport à ce qu'il était à l'origine, jusqu'à ce que les 5 disent, ouais, ok, ça me va. Là, j'ai une émotion.
Ok. Super. Alors sur internet, sur YouTube, on peut voir énormément de clips. Vous êtes vraiment actif à ce niveau-là. C'est vraiment une volonté de mettre en image ce que vous racontez. Est-ce que ça permet de raconter encore plus de choses que uniquement avec la musique?
Oui, forcément, l'image, elle permet, surtout dans cet album qui est assez onirique, je pense qu'il y a ça permet un peu de donner quand même un support, et la musique est complexe, le texte peut être complexe parfois. Il y a quand même quelque chose de plus immédiat dans l'image. Après c'est un choix parmi toutes les histoires qu'on aurait pu raconter avec les chansons. Et on espère aussi que les gens de leur côté peuvent s'affranchir. Enfin, le clip est à la fois une richesse pour le public et en même temps c'est comme un peu quand on voit le film d'un bouquin qu'on a aimé. Bah, surtout dans des trucs un peu où il y a de l'imaginaire, bah non, on l'avait pas imaginé comme ça le paysage. Donc voilà, il y a cette ambivalence, mais ouais, on a pris plaisir en fait à surtout bosser avec des copains. C'est que des copains qu'on fait les clips de cet album. Donc voilà, pas forcément avec des gros budgets, mais avec beaucoup de cœur et des belles équipes, et c'était cool de faire ces clips.
Okay.
Et justement, quelle est l'idée derrière le titre de l'album, L'Oiseleur? Il y a quand même quelque chose de très fort, justement. Est-ce que le nom est venu après l'album?
Ouais,
ouais, c'est ça.
La découverte après coup, en fait, tu regardes ce que t'as fait,
ouais.
Surtout qu'on a fait ça, je pense, sans trop savoir où on allait. En fait, nous, on avançait, on avait nos pistes de morceaux, puis on avançait, et à la fin, on a fait bon, c'est fini. Est-ce que c'est cohérent déjà? Puis on a écouté, on a fait ah, cool, c'est cohérent. Déjà, on était contents. Et après, on a cherché un titre, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des oiseaux pas mal dans l'album, dans Souvenirs, dans Les Ruines, peut-être même dans Le Départ, je sais plus, dans quelques morceaux, il y a des oiseaux qui se baladent dans l'oiseau.
Dans l'oiseau, oui,
voilà.
Tout à fait.
Donc il y a 3-4 oiseaux qui se baladent dans l'album, et c'est un mot, l'oiseleur, que Arthur avait déjà employé précédemment dans des textes qu'on n'a jamais sortis. Et on trouvait que l'idée correspondait bien à cet album, puisque le but dans cet album a été vraiment de, justement après la tournée, après l'urgence, de se retrouver dans quelque chose d'un peu calme, où on peut savourer l'instant. Et en fait, chaque morceau essaie de raconter des instants qu'on a vraiment savourés. Et le but de l'oiseleur, c'est celui qui attrape les oiseaux. Et nous, en fait, au lieu d'attraper des oiseaux, on attrape ces petits instants. Les mots, mais surtout, c'est les petits instants où tu te dis « Ah, là, il y a un truc.
Ouais. »
Ça ne dure pas forcément très longtemps. Mais le but, c'est de les attraper et de les figer. Pas de les figer, mais oui, de les capturer et de les mettre dans chacun des morceaux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on enregistre aussi live beaucoup des morceaux. Ce n'est pas du piste par piste. C'est un moment de studio qu'on a réussi à capter, une manière, une intention collective. Voilà, donc c'est l'idée générale de cet album.
Et pour vous, justement, le texte en français est hyper important. Pour le moment, vous voulez pas dériver sur d'autres langues parce que, justement, en fait, c'est Feu Chatterton, c'est pas du tout ce qu'on peut voir dans la musique actuelle aujourd'hui. Et pourtant, vous tournez dans toutes les smack et tout, et c'est ça qui est hyper étonnant chez vous. En fait, c'est qu'il y a un réel texte qui sort même justement de la chanson actuelle, on peut dire, qui va dans la poésie et tout. Et justement, c'est vraiment, c'est votre marque de fabrique de toute façon.
C'est comme ça qu'on est né.
Voilà.
Même rien qu'à titre personnel, moi je suis le dernier arrivé dans le groupe, enfin il y a 5 ans déjà, mais moi je suis venu.
Parce que vous êtes des copains de lycée aussi, c'est ça?
Ouais, alors eux, il y en a la ligne avant, donc les deux guitaristes et le chanteur se connaissent depuis le lycée. Antoine, le bassiste, est arrivé il y a 6 ans, et moi il y a 5 ans à peu près, je crois. Mais moi là-bas, je suis venu pour les textes d'Arthur par exemple. Moi je traînais plutôt dans le milieu du hip-hop, et puis j'ai fait, oh putain, il est fait bien.
Super.
Et de toutes les façons, je crois que l'essence même du groupe, c'est de se dire. Comment on fait sonner le français de manière pas vieille, enfin justement pas trop française. En fait, comment être français mais sans faire de la chanson française,
ouais, sans faire un truc tout le jour ringard.
En ayant cette idée de bon, bah il y a la langue française et en même temps nous ce qu'on aime c'est plutôt la musique anglo-saxonne, le rock fiqué, même l'électro, enfin mais des trucs qui sont pas vraiment français ou même des trucs un peu plus qui groove plus la soul, la funk. Et donc vraiment comment se dire, comment on peut faire la réconciliation entre les deux. Donc, vu qu'on veut raconter des choses et que de toute façon on parle anglais, mais on parle anglais pour communiquer, peut-être pas pour exprimer précisément ce qu'on ressent, tu vois. Donc, la question se pose même pas.
Ouais, mais c'est un exercice et je trouve que vous faites très bien justement. Et tu parles de soul, de funk, ça se ressent vachement chez Feu Chatterton, pardon, excusez-moi. Justement, ce mélange d'univers et tout. Tu parles de hip-hop, mais justement, le chant en français, c'est hyper présent aussi dans le hip-hop. Justement, tous ces mélanges-là, on le ressent, cette influence.
Tu dis qu'on n'est plus qu'on n'est pas dans l'air du temps. C'est vrai que sur le plan, je pense, de la musique et peut-être même du texte, si on va loin dans la précision du texte, mais dans l'esprit aujourd'hui, du rap ou de ce que maintenant les gens appellent l'urbain, bah non, le texte est revenu de manière. Enfin, le texte a toujours été là dans le rap de toutes les façons, avec des ambitions plus ou moins grandes, mais même quand on voit le succès dédié aujourd'hui, des trucs comme ça, bah non, justement, c'est du beau français et pourtant la musique derrière, c'est de l'urbain. Donc je pense que l'attention au français. Elle revient à fond depuis pas mal de temps en fait, depuis La Femme, depuis Les Scopes.
Oui, puis il y a beaucoup de chanteurs, tu parles d'Eddie Depreto, mais Aurel San, Nekfeu, tous fait en sorte que
toujours du texte quoi.
Alors tu nous disais que, étant donné que vous êtes 5 dans le groupe, vous avez tous des goûts musicaux assez différents, est-ce qu'il y aurait tout de même un artiste ou même un album, un grand classique qui vous mettrait tous d'accord?
Alors un, ça va être dur, ouais. Mais vas-y, on peut dire
2 ou 3, à la limite si tu veux.
Pour ce qui est du français, je pense que c'est l'histoire de Melody Nelson de Gainsbourg.
Ouais.
Parce qu'il y a de la en fait déjà les icônes sont anglais tous, là c'est la production, tout le son n'est pas du tout français. C'est vraiment, ouais. Il a pris que des musiciens, des producteurs anglais, et lui il fait son histoire à la française dessus, mais donc il y a ça du côté francophone. Et sinon, dans les artistes, je pense que Pink Floyd, ça fait partie des artistes qui nous mettent tous d'accord, mais on pourrait en citer tellement d'autres. En fait, avec le temps, on s'est fait une sorte de base commune, beaucoup plus vaste que ce que c'était au départ. Mais ouais, je dirais Pink Floyd, mais tu vois, on pourrait épiloguer.
Après 2 ans de tournée, en plus, vous avez dû en écouter forcément beaucoup.
On tournait puis tout l'été, les semaines passées à la campagne, à faire des compos, puis après, des fois, t'en as marre de jouer, t'écoutes du son, on s'est tous fait découvrir des artistes et fait aimer des artistes. Antoine, le bassiste, c'est lui qui nous a initié un peu au synthé, à tout ce qui est vraiment électronique, mais analogique. Et il nous a vraiment mis dans l'électronique, mais en partant même des racines, genre de l'électronique anglaise, Warp et tout, enfin je sais pas, les délires Aphex Twin et tout, tous ces trucs-là, il nous a biberonné à ça. C'est Seb, lui, il nous a biberonné à plein de trucs, mais il y a deux ans, quand PNL a commencé à arriver sur le temps, il a fait écoutez ça, les gars, c'est de la balle.
Bah oui, il a raison.
Et il a raison, tu vois. Et du coup, on se retrouvait à écouter ça, on fait ah ouais, putain, c'est puissant quand même.
Ouais.
Donc en fait, Seb nous a vraiment pas apporté que ça.
Non, dire. J'imagine bien. Mais c'est leur démarche aussi à PNL qui est ouais. Plutôt hallucinante.
Ouais, même la puissance du son.
Bah oui,
tu mets n'importe quel son. Tu mets PNL, ça tape plus.
Ça tape, ouais, c'est vrai.
Je sais pas pourquoi.
Mais ils sont assez étonnants d'ailleurs, ce groupe-là, parce que vraiment, ils arrivent à mettre d'accord toutes les scènes en fait. C'est ça qui est génial avec ce groupe. Vraiment, tout le monde est d'accord, que ce soit les métalleux, les rockers, les rappeurs.
Même quand t'as envie de juger, de dire ouais, tu fais ah bah non, c'est bien.
C'est ça, et merde.
Ça te prend à ton propre piège, quoi.
Et justement, vous avez fait 2 ans de tournée, ça a été quand même assez vite pour vous, parce qu'il y a eu très vite l'intermittence après le premier album. Vous avez fait 2 ans de tournée, là, vous sortez déjà un deuxième album. Qu'est-ce qui s'est passé justement entre la fin de tournée et vous allez me dire l'enregistrement de l'album?
Absolument rien. On a pris allez, 15 jours de pause et on s'est mis à écrire.
Oh la vache.
En plus, c'est même pas vrai, on a commencé à essayer d'écrire les nouveaux morceaux avant la fin de la tournée. Arthur, on l'a envoyé à Naples, en exil. On l'a envoyé dans une valise, on l'a mis en exil avec ses petits bouquins. En septembre, on a fini la tournée en novembre de cette année-là. Et après, on a enchaîné. Jusqu'en mai où on a commencé à enregistrer l'album, on a fini le mix et le mastering en décembre et puis voilà, on n'a pas arrêté.
Même question pour la suite, là vous êtes en tournée pour présenter le nouvel album, jusqu'à quand va aller cette tournée et puis est-ce qu'il y a des projets par la suite ou pour l'instant c'est vraiment les concerts?
Il y a pas mal de projets, en fait déjà la tournée elle va continuer dans les salles jusqu'en mars. Avec au passage un Zénith à Paris en janvier.
Ah yes.
Et après je pense qu'on va refaire quelques festivals l'été prochain. Probablement pas autant que cet été, mais à mon avis on va finir là-dessus. L'album 3 on n'a pas du tout commencé, mais en fait pour une fois on a enfin un studio à nous.
Oh génial.
On a chopé une résidence. Et donc on va avoir un an là, un studio à dispo, pas d'enregistrement, mais où on peut vraiment mettre tous nos instruments. Là on l'a fait dans des Airbnb pour vous dire.
D'accord.
Avec des ordi, l'album 2, toute la compo, on l'a fait avec des laptops et des synthés dans des Airbnb dans Paris, des trucs tout petits où on se retrouvait le soir. Là on a un vrai lieu de travail où on peut faire du bruit et tout, donc je pense qu'on a
vous allez vous éclater.
Ouais, on a déjà bien envie. Là pour la première fois en fait, je pense que ça fait 5, on n'a jamais eu de lieu à nous, donc là je pense que ça laisse présager pas mal de trucs, ouais.
Et pour vos vies personnelles, ça doit être compliqué de gérer tout ça parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps en fait. Vous êtes tout le temps ensemble?
On est tout le temps ensemble. Il y a eu des périodes un peu plus dures, je pense à la fin de la tournée du premier album. Mais là, depuis un an et quelques, il y a un équilibre. Enfin, je pense qu'on n'a jamais été aussi un groupe ou aussi une équipe qu'avant. C'est beaucoup plus détendu, surtout les gens qui bossent avec nous le disent. Ils disent putain, vous êtes beaucoup moins chiants. Et on est même plus bosseurs, je pense encore, mais on a réussi à trouver un mode de fonctionnement dans la démocratie à 5. À 60 millions, c'est compliqué, mais à 5, c'est déjà compliqué en fait. Mais c'est un super apprentissage en vrai. C'est presque, je pense que la moitié de ce qui nous excite dans tout ça, c'est qu'on n'est pas tout seul à exposer notre vision des choses, mais qu'on doit créer un truc collectif et que en vrai c'est toujours plus riche à plusieurs que tout seul. Enfin, pour nous en tout cas, vraiment c'est un truc hyper le travail d'équipe, quoi. C'est un vrai plaisir.
Il y a un morceau d'Anne Sorel qui s'appelle L'amour à plusieurs. Ça serait peut-être un peu ça.
c'est un peu ça. Ouais.
Et écoute, vous jouez Feu Chatter. T'avais peut-être encore une question.
Pour moi, c'est bon. C'est tout ce qu'il me faut.
Et on est parfait. Donc, vous jouez à 21h05. Si, moi, je voulais quand même juste finir là-dessus.
Vas-y.
Sur le premier album, vous avez rempli le Trianon. Là, tu me dis que du coup, ça va être le Zénith pour le deuxième. Ça va être le Stade de France pour le troisième album.
je pense vraiment pas. Non, mais c'est vrai que on est très contents. Quand même, les salles sont plus remplies que sur la première tournée.
Ouais, c'est fou. Ouais.
Pour un deuxième album, c'est cool. Ça veut dire que le public est encore. Enfin, voilà,
ouais,
le public dit ok, on est là et ça donne vraiment confiance.
C'est plus de la curiosité. Maintenant, voilà. C'est un public fidèle en fait.
C'est un public fidèle et c'est très rassurant et ça donne beaucoup de d'énergie, je pense. Là, on est assez sûr. On a un album, on a un public et on a un lieu pour faire un troisième album et en vrai.
Ça va être que de l'éclat.
Enfin, je touche du moins, on a une chance de ouf. Quoi. Ouais, donc voilà,
clair.
Maintenant on va continuer l'aventure, muscler tout ça. Et voilà.
Et super, je te remercie beaucoup, Raphaël, d'avoir pris du temps de venir nous parler sur 666 et Radio Pulse. Je rappelle, vous jouez sur la scène Art à 21h05 jusqu'à 22h05. Et puis bah, on vous retrouve dans tous les festivals de l'été, là, il y a plusieurs dates de prévues.
En été, puis après on revient, je pense, en Normandie à l'automne. Donc voilà, genre oui.
Je crois que vous passez par Caen d'ailleurs.
Ouais, on passe par Caen. Alors, j'ai vraiment pas toutes les dates en tête, il en reste au moins 80, donc mais c'est pas grave.
Et bah, je t'aurai peut-être de nouveau en interview alors.
Avec plaisir.
Et bah, je te remercie beaucoup. Salut.
Merci.
Bon concert.
Merci.